Pourquoi est-ce qu'on dit ça, évaporer? Pourquoi est-ce qu'on parle d'évaporation? Toujours est-il qu'il y en a pour prendre leur clic et leur claque et disparaître avant le lever du jour, et ceux-là s'en vont reconstruire ailleurs une vie sous un nouveau nom, et sans doute aussi avec un passé imaginaire, une histoire inventée, si on le leur demande, pour brouiller les pistes. C'est cela qui est arrivé à l'oncle. Un matin, quand tout le monde dormait encore dans la maison, il a franchi silencieusement le seuil et son corps s'est enfoncé dans la brume bleue de l'aube. Et dans cette première aube, ce qu'on laissait derrière soi, ce n'était pas seulement les lieux et les personnes, mais les souvenirs même, le fragile conservatoire des instants enfuis. Et dans ce grand effacement, dans cette rature, dans cette dissolution acide de tous ses passés, l'oncle avançait nu et neuf, offert au froid, attendant que le jour se lève tout à fait sur cette version sans mémoire de lui-même, vide et disponible, réduit au crissement de son pas, au tamponnement des socs sur la terre meuble des chemins. L'oncle, dans la solitude de sa marche, ruminant des vies possibles, envisageant plusieurs identités, au début sans en choisir aucune, se demandant à laquelle il avait le plus envie de croire, laquelle absorberait le plus efficacement sa vie d'avant. Et puis, une fois qu'il s'était décidé, peaufinant sa fable, ajoutant quelques détails vraisemblables, empruntés à quel roman, à quel oui-dire, à quel moment de l'existence d'un autre dont il aurait été le témoin, et cherchant des moyens mnémotechniques pour être en mesure de les répéter plus tard, sans variante, craignant l'interlocuteur soupçonneux qui, un jour, au moment où il s'y attendrait le moins, un soir de juin, par exemple, agenouillé avec lui à une table basse où il boirait du saké tiède en écoutant tomber la pluie d'été, lui ferait répéter une anecdote et l'œil mauvais, triomphant, exhiberait une contradiction, une différence, la preuve irréfutable de sa mystification. Vers quoi l'oncle était-il en route? Quelle destination? Où, s'étant inventé un nouveau nom, il s'occuperait à une activité nouvelle et qui dorénavant viendrait le définir, pêcheur, pourquoi pas, et ses pensées se seraient fixées sur le rivage à trouver, la rive lointaine où il se résoudrait à s'arrêter pour passer ses jours debout devant sa cahute à contempler les flots, sans mémoire, non pas ressassant, mais le fort intérieur tout désert, et juste les sensations de l'instant, les yeux qui se rempliraient du paysage de cette berge à présent la sienne. Et son corps lentement s'y transformerait sous l'effet de l'absorption des mets locaux, des poissons de la rivière qui passeraient devant sa cabane, du wasabi cultivé dans les champs voisins, du riz qui pousserait là, leur plan d'un vert doux à l'œil, sa chair désormais façonnée par tout cela qu'il avalerait et convertirait, comme forcément on le fait de la nourriture qu'on ingurgite, en molécules constitutives de soi. L'oncle, qui jour après jour digérerait le décor naturel des rizières et des flots, bravement métamorphosé par l'exil, chaque jour un peu moins celui qui avait quitté la maison du frère et de Sumiko, mais transformé en celui-là qui, sous son nouveau nom, mangerait les paysages et distillerait ses heures dans ce corps pour partie renouvelé. Et son sang, de même, laisserait entrer dans sa composition l'oxygène qu'on respire là-bas.